Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par des scénaristes. Bienvenue dans Sequel de Pitch, épisode 43. Aujourd'hui au programme, on va parler des filles du Dr March. C'est Guillaume au micro, et pour parler de ce film, j'ai autour de moi ma petite équipe de femmes fortes, indépendantes et très bonnes autrices. J'ai nommé Armand, Marie et Fiona, les filles du Dr March, et non pas les quatre filles du Dr March, attention. Écrit par Greta Gerwig, et évidemment d'après les romans de Louisa May Alcott, et c'est Marie qui nous le pitch.
Alors nous sommes aux États-Unis pendant la guerre de sécession. Et c'est l'histoire d'une famille composée uniquement de femmes, puisqu'on a la mère et les quatre filles, pendant que le père aumônier est parti justement sur le front. Et c'est une famille désargentée qui a été riche par le passé et qui a tout perdu, et qui essaye de survivre tant bien que mal dans la pauvreté, mais tout en étant généreux. Et c'est le quotidien de ces quatre sœurs, très proches mais aussi très différentes les unes des autres, et comment elles vont passer de l'enfance à l'âge adulte grâce à un montage alterné entre ces deux époques qui ont à peu près 7 ans d'écart.
Très bien, alors on va commencer par les personnages. Alors moi je trouve que ce film est un concours de savoir qui est la femme la plus forte et la plus indépendante. Donc on va commencer par Jo, qui est une scène que j'aime bien parce qu'elle arrive, elle écrit, elle fait non, c'est une amie qui écrit pour moi. Bon, on avait compris, mais rajoute un petit détail où on voit de l'encre sur ses doigts. Et puis il parle à l'éditeur qui a très bien compris que c'était elle qui avait écrit et qui montre la censure de l'époque. Fiona ?
Alors oui, Jo, c'est la protagoniste de ce film. Mais ce film qui est un film de personnages. On va pas se mentir, donc je pense qu'il faut qu'on reste longtemps sur ce sujet. Oui, Jo, qui est typiquement la femme un peu trop révolutionnaire pour son temps, dans le sens où elle ne veut pas se marier. Tout ce qu'elle veut, c'est devenir autrice. Elle écrit. Elle est assez masculine. Assez masculine dans ses gestes, hein, plutôt
qu'elle
que
n'est pas vraiment masculine.
Non, elle se tient pas. Elle se tient pas bien. Elle donne des coups. Elle est plus bagarreuse. Après, elle est
aujourd'hui, aussi... elle cracherait par terre.
Moi, peut-être.
Elle mettrait
en tout cas,
jeans.
Elle est tout aussi. Elle est quand même très. Elle n'hésite pas à couper ses cheveux pour aider sa famille, mais elle est quand même très très peinée de les avoir perdus.
Oui, d'ailleurs, cette scène est merveilleuse parce que donc elle a coupé ses cheveux, ce qui est un scandale pour l'époque. Elle est tondue, alors avec plein de guillemets parce que
tondue, j'ai peut-être un peu loin là. Quand
ils auraient pu y aller un peu plus à fond. Mais peut-être que c'était plus, ça à l'époque, ceci dit.
Je veux dire, oui, parce qu'il y a cette très belle scène où elle se fait couper les cheveux pour aider sa famille. On sent que c'est un choix difficile mais assumé, et en même temps, ça la rend plus masculine et ça affirme sa personnalité. Donc elle est fière de ce qu'elle a fait et elle se cache après pour pleurer, non pas parce que leur père est malade et risque de mourir, mais parce que ses cheveux sont coupés. Et c'est donc un personnage très, je trouve, très complexe en fait. Il est ambivalent, c'est pas juste un garçon manqué, avec cette expression que je déteste. C'est une vraie femme, en plus qui est quand même très belle, très bien interprétée et qui a beaucoup de profondeur.
Très bien, je vais me tourner vers le mâle de ce podcast. Armand ?
Je trouve qu'effectivement les personnages sont très bien dépeints. À part le personnage joué par Emma Watson, c'est
ouais,
ça
Emma Watson,
qui je trouve un peu absent. On lui consacre peut-être pas suffisamment de temps, mais je trouve que pour un film justement avec quatre filles à différencier qui sont pas très éloignées les unes des autres en termes d'âge, je trouve qu'on les différencie assez bien, on les distingue bien, et c'est pas uniquement des numéros d'actrices, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement pas mal dépeintes dans le scénario. Donc point en plus pour les personnages, même si je trouve que parfois, effectivement, par rapport à la coupe de cheveux. En général, l'autrice a eu un peu du mal à leur faire, sauf à la fille qui tombe malade, spoiler, à leur mettre un peu des coups dans la gueule parce que elle est peut-être parfois un peu trop gentille avec elle. C'est-à-dire qu'elle se coupe les cheveux, mais pas à fond. Elles font un petit peu des coups de saloperie entre elles, mais ça va pas toujours très loin. Et je trouve, par exemple, que le personnage de la mère, qui est Laura Dern, elle dit qu'elle est en colère tous les jours dans sa tête, mais qu'elle lutte contre sa propre nature d'être en colère. Et c'est vrai que comme le personnage de Laura Dern, qui est génial, mais qui est un ange absolu et parfait et plein de vertus, une fois dans le film, j'aurais aimé qu'elle se mette en colère et que tout le monde soit complètement sur le cul. Je trouvais que c'était parfois un peu trop gentil, y compris avec les persos.
Et tu parlais d'Emma Watson, moi j'ai trouvé, enfin, j'adore cette actrice, elle est incroyablement belle. Toutes ces scènes, elle se marre, elle penche la tête en arrière, quand elle est bien habillée, quand elle a un bébé dans les mains, quand ton père est mort, enfin, elle passe son temps à rire bêtement.
Mais non, pas du tout.
Oui, Marie ?
Non, non, attends, elle a quand même une trajectoire hyper forte. C'est la romantique du groupe. Elle fait un choix d'amour et elle choisit de rester pauvre toute sa vie par amour. Enfin, je trouve qu'elle fait des choix extrêmement forts et... Oui, en fait, elles font toutes des choix très forts. Et justement, je voudrais revenir sur ce que Armand disait, c'est qu'on a un film avec, même si Jo est plus forte que les autres, un film avec quatre personnages féminins qui sont très proches les uns des autres, autant physiquement que... Enfin, je veux dire, elles sont quasiment... Toutes les scènes, elles sont ensemble, voilà. C'est des scènes de groupe. Et pourtant, elles sont toutes très bien caractérisées. Elles sont toutes... assez profonde et pas seulement juste des stéréotypes. Elles ont chacun de très belles trajectoires et elles deviennent très attachantes parce que certaines sont, quand on voit le personnage d'Amy qui est un peu au début très capricieuse, on voit bien qu'à la fin, notre regard a changé. Pareil sur Emma Watson, sur Jo et même sur Bess.
Oui, Shana ?
Oui, moi, effectivement, là, c'est la nuance des personnages qui est chouette. On n'a pas la maniaque, la sportive qu'on pourrait avoir d'habitude. Et ce que je trouve super, et moi, ce qui m'a vraiment touchée, et donc, pour revenir sur Jo, qui est un peu le personnage principal, moi, j'ai adoré. En fait, on a tendance, je trouve, quand on dépeint de nos jours des femmes fortes à l'écran, on veut tellement effacer les stéréotypes qu'on a mis en place avant de la fille qui n'est que douce et que amour et que beauté, que maintenant on lui retire ses caractéristiques, on lui retire la douceur, l'amour et la beauté, parce que du coup maintenant c'est une badass, elle y va, elle en a plus rien à foutre et l'amour c'est pas pour elle, etc. Et là Jo, elle pourrait s'incarner là-dedans, mais elle est pas là-dedans non plus. Elle dit je ne veux pas me marier, mais moi j'ai adoré une scène qui est certes un peu explicative mais qui m'a vraiment plu, où Jo dit justement ça, elle dit on n'est pas qu'un cœur, les femmes, on est aussi un esprit, on est aussi un cerveau, et elle se met à pleurer, mais je me sens tellement seule, et le fait qu'elle se marie à la fin à cause aussi de l'éditeur, etc., je dis mais oui, il faut arrêter de nous dire parce que c'est des femmes fortes, elles n'ont plus le droit d'être en couple, elles n'ont plus le droit d'avoir ça, et justement, enfin, il y a plein de films où les protagonistes sont masculins, ils ont une quête, ils ont de l'amour, et jamais on leur dit c'est des midinés parce qu'ils se battent pour leur femme. Et on a tendance à enlever le côté romantique des femmes sous prétexte qu'il ne faut plus les montrer faibles.
Très bien, je suis d'accord. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de...
Pardon, je voulais juste en allant assez vite. Effectivement, cette scène, effectivement, malheureusement, elle est un tout petit peu explicative quand elle dit justement « je me sens extrêmement seule ». Et c'est ça qui est dommage, c'est que j'ai trouvé que son... on comprenait en fait, bizarrement, alors qu'elle s'expliquait de plus en plus, je comprenais un peu de moins en moins Jo. J'avais un peu l'impression qu'elle disait non au bonheur quoi qu'il arrive. Enfin, et du coup, j'avais dit, mais vas-y, écoute-le. Elle trouvait des raisons face à Timothy Chalamet qui lui dit je t'aime. Mais non, ça marchera jamais. Je t'aime. Ça marchera jamais. Mais si, on va être heureux, je t'aime. Et t'as envie d'un peu de lui dire bon, allez, arrête. Essaye de considérer l'offre une seconde. Même si tu sais qu'elle a raison, qu'effectivement, tu sens qu'elle a raison de dire que ça ne marchera pas. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que dans cette toute première scène que t'as décrite, Guillaume, très très bien, qui est une super scène, moi je trouve, qui est hyper, ça te la rend hyper attachante en deux minutes. Et ben, ce qui est dommage, c'est que je trouve que c'est un peu moins gardé en fait cette pudeur du personnage et qu'elle devient un peu de plus en plus vindicative et que en fait, ça, bizarrement, ça la rend de moins en moins compréhensible. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça passe moins par l'action et plus par un discours, je sais pas.
Bah, je sais pas. Moi,
je suis partagé là-dessus.
Moi, je suis d'accord. Pour moi, elle refuse un peu le bonheur. Comme une ado rebelle, enfin qui dit je ferai pas comme les autres.
Refuse pas le bonheur. Non, mais elle est pas amoureuse.
Non, elle est pas amoureuse. Elle est pas amoureuse de Timothée. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle dit tout le temps, je pense que je me marierai jamais. Je veux pas me marier, c'est pas pour moi. Et comme si elle disait comme je veux une carrière, etc. Je pourrais pas avoir les. Enfin un peu le côté, on revient souvent à dire ça. Est-ce que tu peux avoir les deux famille et carrière? Et elle se dit dans mon époque, clairement, je suis pas faite pour avoir une carrière, si j'en veux une, il faut que je renonce à la famille.
Peut-être que c'est simplement parce que le discours est dit au lieu d'être montré par l'action. C'est peut-être pour ça que ça m'a moins touché.
Après aussi, peut-être qu'elle se renferme là-dedans parce qu'elle n'est pas amoureuse de Timothée Chalamet.
Oui, ça c'est vrai.
Et du coup,
de toute manière, elle n'est pas amoureuse de lui.
Je suis pas amoureuse de lui. Lui, même comme une folle, je devrais l'aimer. Du coup, peut-être que je suis pas faite pour l'amour, tout simplement, parce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre que cet homme qui l'aimait éperdument.
En parlant de ça, parce que n'oublions pas, nous sommes le podcast officiel de Timothée Chalamet quand même. On va pas s'en cacher. Et du coup. Alors personnellement, moi j'ai trouvé que c'était un énorme connard parce que il tombe amoureux de Jo en disant vas-y viens, on va être heureux et juste après, c'est pas juste après,
c'est 7 ans plus tard,
et on va dire il drague sa sœur, Quel genre d'enfoiré saute après
la sœur. Non, il drague pas sa sœur.
Il a vécu une grosse période où il a été extrêmement malheureux, très triste, parce que voilà, il a perdu la femme qu'il aimait. Il a renoncé à leur amitié également, parce qu'elle dit qu'elle lui envoie des lettres et il y répond pas. Donc c'est une vraie rupture dans sa vie. Et quand il retrouve Amy, il retrouve ce qu'il avait aimé chez Joe aussi, c'est-à-dire il a aimé être accueilli dans cette famille, il a aimé ses voisines-là, il a aimé tout ce qu'elle leur apportait de vitalité, parce que lui, c'était juste un petit garçon qui était dans un grand château et qui se faisait chier avec son grand-père.
Bon, enfin, excuse-moi, déjà, la
non,
scène...
Non, mais il se rend compte, en étant juste avec Amy, qu'elle correspond beaucoup plus à lui, en fait. Ils ont des inspirations communes.
Alors, je suis pas d'accord, parce que, un, c'est un stalker, le mec qui se cache dans les vestiaires pendant qu'elles font leur petit spectacle, hein, déjà, et d'une.
Non, mais
et
c'était deux, prévu.
Et de deux, à la fin, il y a quand même, quand il a l'enfant avec l'autre, il regarde Joe. Et on sent qu'il la regrette quand même.
Non, moi je l'ai pas vu, personnellement je l'ai vraiment pas vu. Après, moi c'est possible qu'ils se disent
franchement,
ça aurait pu, dommage qu'elle m'ait pas, que ce soit pas moi peut-être, mais je pense que son amour pour Amy est sincère.
Oui. Ouais, est-ce que tu peux lui en vouloir justement de se dire j'ai complètement tourné la page et il se trouve que voilà, sa sœur.
En plus, Amy en plus a des similitudes avec Joe dans son caractère, elle est fougueuse aussi, elle a du répondant, elle a de l'ambition. Après, peut-être qu'elle a un côté un peu plus douce qui.
Elle est
marche
plus douce,
elle est
moi
pas
je la trouve plus mondaine. Mais
plus mondaine, exactement.
Ce
plus mondaine qui va peut-être mieux avec Laurie.
En tout cas, c'est pas la pauvre fille de substitution. Hein. Elle est chouette, cette.
Elle est, chouette.
Ouais, elle est très bien, c'est mon personnage préféré.
Sur ce personnage, parce que quand on a Meg, qui est vraiment. Elle fait un mariage d'amour, elle renonce, voilà. Enfin, elle embrasse la pauvreté par amour. À l'inverse, on a Joe qui, elle, décide de mener sa carrière en sacrifiant peut-être son côté cœur. Et elle, Amy. Elle a été choisie en plus par la vieille tante Marge qui lui fait tout un discours sur l'avenir de ta famille repose sur tes épaules. Tu es la seule à pouvoir subvenir aux besoins de tes sœurs, de ta mère, de ton père. Tu es belle, tu es intelligente. Et après, quand Amy revoit Laurie et qu'elle lui explique que, bah oui, les femmes, ben, elles ont un destin un peu plus compliqué que les hommes. Et que oui, des fois, elles font des mariages
arrangés
parce que juste, c'est leur seul moyen de substitution. Enfin,
De subsistance.
Eh ben, je trouve que c'est un personnage très fort parce qu'au début, elle passe pour une petite capricieuse. Et en fait, non, c'est juste un personnage extrêmement raisonné dont le destin de la famille entier repose sur ses épaules. Eh ben, elle fait les bons choix.
Et c'est aussi, effectivement, elle avait un autre choix qui était ce Fred.
Fred Vaughn,
ouais, qui lui était promis. Et finalement, elle aussi a fait le choix du cœur de dire... En fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que les trois filles ont fait le choix du cœur et ça ne les rend pas faibles pour autant.
Et sans renoncer à leurs aspirations personnelles, c'est vraiment... Elles ont chacune leur trajectoire et elles restent fidèles à leurs idées.
Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aussi aimé quand Meg, qui du coup, effectivement, est peut-être dépeinte comme quelqu'un d'un peu plus... un peu plus légère, enfin dans le sens un peu plus romantique, amoureuse, etc. Et peut-être que vous l'avez perçue comme quelqu'un qui rigole tout le temps. Peut-être qu'elle est plus douce, elle est plus complaisante, on va dire. Mais quand elle dit... il y a deux passages que j'ai beaucoup aimé. Quand elle dit à Joe, c'est pas parce que mes choix, mes aspirations, mon ambition est différente de la tienne, à savoir elle veut fonder une famille et se marier, etc.,
qu'elles sont moins
importantes. Et c'est vrai, de dire, et on a encore une fois, de nos jours, envie de dépeindre, de dire, ah, elle veut qu'une famille, quelle merde. Enfin, tu vois, non, c'est des ambitions aussi, et elle a le droit, en tant que femme, de dire, moi je veux ça, et je l'assume, de vouloir un mariage d'amour et de vouloir des enfants. Et en même temps, je trouve qu'elle est très touchante quand elle dit dans son ambiguïté à son mari plus tard, je suis tellement lasse d'être pauvre. Et elle ne peut rien changer à ça, le fait d'être pauvre. Ça tout joue sur son mari. En fait, et on se rend compte à ce moment-là que tout s'est joué sur ce choix-là de mari, en fait. Elle a choisi ce mari-là et son destin. Elle a fait ce choix. Et elle ne le regrette pas. Elle a des moments durs.
Il faut qu'on passe un peu à l'intrigue, les filles. Alors, au risque de mettre un coup de pied dans la mare, est-ce que c'est pas un peu l'histoire de quatre filles bourgeoises, anglaises, hétéro cisgenres qui se demandent qui elles doivent épouser? Personnellement, ça m'intéresse pas des masses, hein, mais est-ce
moi,
que c'est pas
que
ça,
c'est pas ça l'histoire.
Ah bon.
Pour moi, c'est une histoire de sœurs. C'est raconté.
Elles seraient amies sans rien changer.
Mais c'est réducteur.
Ah, si, ça change tout.
Alors, dis-moi, expliquez-moi. Alors,
pourquoi? Mais parce qu'elles peuvent se faire des sales coups de pute, genre brûler le manuscrit que l'autre elle écrit depuis 5 ans et s'aimer encore. C'est ça aussi une histoire de sœurs. C'est qu'elles vivent dans la même maison, elles partagent la même chambre, elles ont grandi ensemble, elles se connaissent par cœur, elles sont très différentes. Si elles avaient été amies, elles n'auraient peut-être même pas pu être amies, en fait, tellement elles sont différentes.
D'accord,
et
mais enfin, en reprenenant cette scène, excuse-moi, moi j'ai trouvé ça très bon qu'elle brûle son manuscrit. Comment elle se réconcilie? Elle tombe. par hasard dans la glace.
Elle tombe parce que Joe ne l'a pas prévenue.
Ça rejoint tout ce qui relève de l'intrigue dans ce film, c'est traite.
C'est quand même pas terrible. Regardez-moi dans les yeux, les filles, et dites-moi que cette scène est bien écrite. Ils ont un problème qu'on semble insurmontable, et là, comme par hasard, elle tombe dans l'eau et fait « Oh mon Dieu, ma petite sœur !» Comme par hasard, elle est en danger de mort à ce moment-là. C'est pas possible.
Moi, je suis d'accord qu'elle tombe dans la glace, parce qu'en gros, on l'a dit, reste sur les côtés. Effectivement, ça craint au milieu. Elle le dit pas à sa sœur. Ce que je trouve un peu dommage, c'est la réaction de Joe qui immédiatement elle l'entend, elle fait oh, ma sœur comme si. Alors que pour moi, elle l'avait voulu qu'elle se casse la gueule dans l'eau.
C'est pas super clair.
Donc pour moi,
c'est ambigu, mais c'est.
Mais pour moi, elle l'avait voulu. Donc du coup, j'aurais voulu qu'on joue un peu plus l'ambiguïté, qu'on entende Amy un peu crier juste deux secondes et qu'ils disent oh, c'est Amy, oui, mais elle a un problème et qu'elle se rende compte qu'en fait quand elle la voit, quand elle y retourne, elle se dit putain, c'était pas drôle.
J'aurais préféré qu'on montre que c'était une intention de sa part, qu'elle tombe, mais qu'elle se rende compte après coup que en fait c'est très très grave et qu'elle peut la tuer.
Effectivement, pour moi.
Mais globalement, en fait, bon, moi c'est perso, mais j'ai beaucoup de mal avec les films chronique, c'est quand même très très rare que j'aime un film chronique, mais là même au-delà de l'aspect chronique et qu'on suit vraiment une espèce de saga, j'ai trouvé qu'il y avait deux problèmes dans les intrigues. C'est d'une le choix de cette double temporalité, enfin cette double timeline qui est pour moi pas toujours très heureuse et pas toujours très bien gérée, parce qu'il y a des moments où on a des gros problèmes de compréhension. Ils ont hésité à les vieillir trop ou à les rajeunir trop. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas très envie de les enlaidir ou de trop les vieillir, je sais pas.
Personne vieillit. Et à part Meg.
Et d'autre part, je trouve que même au niveau de même dans ce qui est chronique, il y a des choses qui sont un peu sous-dramatisées ou désamorcées trop vite, ou alors des choses qu'on voit venir de trop loin et ou alors qui sont on devrait couper la scène un petit peu plus tôt, quoi. Il y a pas mal de, par exemple le moment justement où t'as Timothy Chalamet, je me souviens plus du prénom du personnage,
Laurie,
où il intervient dans leur dans la réunion et qui tout d'un coup, surprise, il est là et il joue un personnage. C'est mignon, 3 secondes. Au bout d'une minute de ah là là, on est tous marrants et on imite tous des personnages. Au bout d'un moment, je dis non, mais c'est bon, on a compris. Je trouvais que ça devenait mièvre.
Je suis assez d'accord que ce film est assez mièvre. Pour moi, un petit peu mièvre, mais. Dans l'enfance,
et long.
Dans le parti enfance, ça me dérangeait pas parce que justement c'était, je pense, le côté glorieux des années d'avant, avant le mariage de Meg et avant la mort de Beth. Et on n'a pas du tout parlé de Beth. Faudrait quand même en parler de cette petite timide qui n'a rien demandé.
Cette petite pianiste.
Mais donc c'était. Mais par contre, je suis d'accord sur le fait que moi j'ai bien suivi les timelines, mais j'étais avec mon mec qui regardait toujours et je me penchais tout le temps pour lui dire 7 ans plus tard.
Pourtant, ils ont
dans
fait,
le passé.
Ils ont fait une...
7 ans plus tard, donc ils suivaient la timeline parce que je lui disais.
Ah, ça doit être masculin mais... alors. J'ai pas suivi non plus.
Ils ont juste fait un filtre.
Ouais, c'est ça. Ils ont fait un effort au niveau d'image. En général, dans le passé, chaleur. C'est beaucoup plus clair.
Oui, c'est
un
filtre plus beau. Mais je suis assez d'accord, on en a parlé avec Marie.
Ça coupe les cheveux.
Je trouve que ces actrices, elles ont entre 23 et 28 ans. Je crois que 29 ans, elle a Emma Watson. Est la plus jeune à 23 ans, elles sont plus facilement crédibles dans la période du passé, dans la période de 7 ans plus tard, que quand elles sont jeunes, ou 7 ans plus tôt, où elles sont censées, Amy est censée avoir 13 ans.
Ouais,
ça ne fonctionne pas. Et effectivement,
non,
il aurait fallu.
Elles sont censées dans le bouquin, mais dans le film, on parle jamais qu'elle a 13 ans. Ça
oui, oui, mais on nous dit 7 ans plus tard, donc il y a quand même.
Pour moi, il y a un gros problème de différence.
Il aurait fallu,
d'âge.
Au niveau du maquillage, ou je sais pas,
trouver
des astuces pour les rajeunir, je trouve, parce que. Mais ça, c'est pas du scénario, c'est vraiment de l'image. C'est dommage parce je trouve que c'est pas facile à suivre à ce niveau-là.
Moi, je trouve que, contrairement à toi, Armand, j'ai beaucoup aimé cet enchevêtrement de deux timelines. Je trouve qu'il aurait été vraiment plus malheureux de faire la partie enfance, puis paf, on passe à 7 ans plus tard. Je trouvais que.
Je suis d'accord, mais pardon. Vas-y,
c'est
terminé.
Parce que notamment, j'ai trouvé que c'était thématique. C'était une timeline, deux timelines réunies par la thématique. Et je voudrais souligner.
Mais juste pour les timelines, je trouvais que c'était trop systématique. Et c'est ce qui faisait que parfois, le passage d'une. Enfin, le changement de timeline, c'est pas qu'il n'était pas justifié, c'est qu'il n'était pas suffisamment fort pour être justifié, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, ça m'a pas dérangé.
Je voudrais souligner la séquence de la mort de Bess, qui est extrêmement poignante, j'ai trouvé, tout en étant.
Tu dirais que le rêve, là
peu... Comment ?
Avec le rêve, ou elle rêve qu'elle est encore vivante ?
Elle ne rêve, parce que
elle rêve en... jamais qu'elle est encore vivante.
Mais si, elle descend, elle rêve, elle dit « Oh, finalement, ta soeur va mieux, tout ça. »
Et en fait, c'est ça, c'est un flashback de sa première maladie.
Parce qu'elle a été malade, elle est tombée malade la fois où elle a été seule donner à manger à la famille où le nourrisson est mort. Elle a failli mourir, et là, Joe a eu la joie de sa vie en se rendant compte le matin qu'en fait elle n'était pas morte, elle avait survécu et qu'elle elle avait guéri. Et on a exactement la même scène où elle revit les mêmes choses, elle croit jusqu'au bout que l'histoire va se répéter et là sa sœur est absente.
Ouais, mais là ce que je trouve vachement bien dans celui-là, c'est justement quand elle redescend les escaliers, là, alors que dans la première, dans 7 ans plus tôt, quand elle est en courant un peu en panique, là on sent qu'elle descend doucement parce que comme si elle sait que cette fois-ci elle aura pas la même.
Alors j'avais pas du tout saisi que c'était un flashback et qu'elle revivait.
En fait,
question, qui a lu le livre? Moi je ne l'ai pas lu. Tu l'as pas lu, Fiona?
J'ai pas lu le livre et j'ai vu aucune adaptation. Donc c'est la première fois.
D'accord.
Que je
moi aussi je découvrais. Donc c'est pas une question de qui
non,
a lu le livre.
Non, là moi j'ai vraiment.
Non, parce que juste je suivais pas bien à ce moment-là.
Non, mais effectivement, le problème.
J'ai eu cette sensation de rêve plutôt que de flashback.
Il y a aucun rêve, hein, il y a que des flashbacks.
D'accord. Il faut qu'on. On va parler du thème. Alors j'espère que vous serez d'accord avec moi. Comme thème, j'ai noté on trouve toujours l'amour sauf si on a une maladie mortelle. Je pense que c'est un peu ça.
Moi, je trouve que c'est un film très puissant d'un point de vue féministe. Je trouve que ça décrit des personnages féminins très forts, tout en nuances, et qui sont chacun valables à leur façon, et qui décrivent pour une fois de manière très juste et très sincère des relations entre des personnages féminins aussi, et l'amitié entre un homme et une femme qui peut être totalement pure. Ça finit par se retomber.
Oui, ça finit, mais c'est vrai qu'il y a quand même un déséquilibre.
Il y a un petit déséquilibre. Mais je trouve que ça raconte quand même sur ce que les femmes devaient vivre à l'époque et sur leur choix et sur à quel point leur destin reposait sur l'homme qu'elle épousait est extrêmement fort.
C'est vrai qu'il fallait pas se planter, oui. Quelqu'un d'autre sur le thème?
Oui, enfin moi c'est pas le thème. Je trouve que Marie l'a bien résumé de voir qu'on peut en fait on peut tout avoir si on avec de la poigne et que c'était pas facile. À l'époque, mais je trouve ça juste dommage qu'on, comme c'est un film de personnages, hein, on l'a dit, il n'y a pas beaucoup spécialement d'intrigue, qu'on est un peu. On n'a pas parlé de Bess du tout, et on n'a pas parlé beaucoup d'Amy et de Louis Garrel. Les amis, on a oublié Louis Garrel.
Parce qu'on est vite oubliable.
Oui, voilà.
C'est surtout qu'on nous le replace à un moment où c'est pratique pour le scénario, mais il n'est pas, bien payé.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, mais c'était pour donner un défaut au film. Effectivement, je trouve que l'amour entre Louis Garrel et Saoirse Ronan. Bon, il aurait une petite scène en plus au début, nous aurait un peu aidé pour.
Il manque une petite étape pour qu'on y croie.
Pour qu'on y croie un peu plus, voilà. Et pour Bess, bon, ça marchait aussi. Juste Amy, j'ai beaucoup aimé quand Timothée Chalamet lui dit, pourquoi pas nous deux, et qu'elle lui dit, non, en gros, tu peux pas me faire ça. Moi, je t'ai aimé toute ma vie dans l'ombre de ma sœur. Tu peux pas me faire ça. Je trouve que c'était extrêmement, extrêmement touchant et que ça rattrape beaucoup ce personnage qui justement a été pour lui un petit peu montré comme quelqu'un de. Pas désagréable, mais capricieux et un peu arrogant. Voilà.
Oublie pas, Fiona, surtout que dans Un jour depuis à New York, il se tape déjà la sœur de sa copine.
Oui,
il aime bien chez Timothée se taper la sœur des personnages.
Pour finir sur ce film, moi j'ai trouvé que c'était très réussi, que c'était des très très beaux portraits de femmes et d'hommes aussi, parce que j'ai bien aimé aussi le grand-père et tout ça, et que c'est vraiment c'est à voir.
Très bien, c'était ton tour final. Marie, final.
C'est un film que j'ai trouvé merveilleux, merveilleusement bien écrit, très très touchant. Je pense que j'ai pleuré une petite dizaine de fois. Je suis extrêmement contrariée par contre, parce que je me suis rendu compte à cette occasion que les traductions que nous avions, nous, en France, de ce roman étaient plus que bâclées, elles sont saccagées. Nous, on a des versions.
Elles sont censurées.
Censurées, exactement. Elles font moins de la moitié du roman original. Et moi, le roman que j'ai lu, qui était un vieux roman que j'ai acheté dans une braderie, la fin avait été carrément réécrite par l'éditeur. Et Joe épousait Laurie. Et je ne comprends pas que. Je pense qu'il faut faire un procès aux éditeurs qui vendent encore ces versions-là. Ouais. Je pense que c'est. Enfin, voilà.
Comme c'est des collecteurs maintenant.
J'avais lu le livre, mais je pense avoir eu presque un train de retard finalement par rapport à tout le monde, parce que j'étais saccagée par.
Ça donne envie de lire le livre original, je trouve.
Armand, ton final ?
Moi, je trouve que le message est passé, mais malheureusement, chez moi, il ne s'est pas imprimé. Parce que justement, émotionnellement, je suis resté un petit peu en dehors à cause de longueur et d'une certaine. De l'aspect chronique et d'une certaine mièvrerie qui fait que je restais un petit peu en dehors. Mais c'est un goût.
Mais je suis comme toi, je trouve que le film est pas. Ça reste un bon film, c'est juste que le sujet ne m'intéresse absolument pas. Leur enjeu ne m'intéressait pas. Et j'aimerais quand même dire que Timothée Chalamet nous refait sa fameuse technique de je viens une soirée, je m'isole. et j'attends que quelqu'un vienne me parler, et c'est comme ça que j'emballe. Il fait exactement la même chose que dans Larry Bird. Lady Bird, qui a été écrit bizarrement par Greta Gerwig. Donc la même personne. Troisième film, on commence déjà à se répéter. Ouais, bravo, Greta.
Guillaume, on sait très bien que tu écris les mêmes scènes dans les différents...
très bien, on passe aux recommandations. Marie, c'est ton tour.
Oui, eh bien, je voudrais recommander le podcast « Ça peut pas faire de mal » qui a été publié il y a un peu plus d'un an sur France Inter avec Guillaume Gallienne et qui parle des quatre filles du Dr March et qui fait un excellent parallèle très très touchant avec Simone de Beauvoir qui avait lu le roman quand elle était adolescente et qui en parle une fois adulte et c'est vraiment très très intéressant. Et ça éclaire encore une fois de manière... Enfin, le point de vue féministe de ce film.
Très bien. Eh ben, merci Marie et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.